Connaissez-vous le lien entre un assassin, une pianiste frustrée et un évangéliste de rue? C'est ce lien que j'espère vous faire découvrir aujourd'hui à travers un texte qui se trouve dans l'évangile de Jean, que nous étudions depuis fort longtemps. Et nous sommes arrivés au chapitre 11. Nous avons vu la dernière fois la résurrection de Lazare et nous allons maintenant découvrir la suite des événements. Jean chapitre 11, à partir du verset 45. Et peut-être puis-je vous demander de vous lever pendant la lecture en signe de respect pour la parole de Dieu. Un grand nombre de Juifs qui étaient venus voir Marie et qui avaient vu ce qu'il avait fait, quand on parle de la résurrection de Lazare, opérée par Jésus, mirent leur foi en lui, en Jésus. Mais quelques-uns d'entre eux s'en allèrent voir les pharisiens et leur raconter ce que Jésus avait fait. Alors les grands prêtres et les pharisiens rassemblèrent le Sanhédrin et dirent « Que faire? Cet homme fait beaucoup de miracles. Si nous nous laissons faire, tous mettront leur foi en lui, puis les Romains viendront détruire notre pays et notre nation. » Mais l'un d'eux, Caïphe, qui était grand prêtre cette année-là, leur dit « Imbécile, vous ne vous rendez pas compte qu'il est avantageux pour vous qu'un seul homme meure pour le peuple et que la nation tout entière ne soit pas anéantie ?» Il ne dit pas cela de lui-même, mais étant le grand prêtre cette année-là, il prophétisait que Jésus allait mourir pour la nation. Et non pas seulement pour la nation, mais aussi pour rassembler en un corps les enfants dispersés de Dieu. À partir de ce jour-là, ils décidèrent de le tuer. Jésus, quant à lui, ne circulait plus librement parmi les Juifs, mais il partit de là vers la région près du désert, dans une ville appelée Éphraïm. Il y restait avec ses disciples. La Pâque des Juifs était proche, et beaucoup de gens du pays montèrent à Jérusalem avant la Pâque pour se purifier. Ils cherchaient Jésus et se disaient les uns aux autres dans le temple, « Que pensez-vous? Ne viendra-t-il pas du tout à la fête ?» Or, les grands prêtres et les pharisiens avaient donné l'ordre que si quelqu'un savait où il était, il le fasse savoir afin qu'on l'arrête. Vous pouvez vous asseoir. Jésus vient de faire un miracle assez extraordinaire. Il vient de ressusciter un homme devant les yeux de beaucoup de monde. C'est vrai que ce n'est pas la première résurrection dans l'histoire du salut. Il y a eu Élie, il y a eu Élisée, et Jésus déjà a rappelé à la vie la fille de Jaïros, par exemple. Il n'empêche que c'est un miracle retentissant parce que là, il ressuscite un homme qui est mort depuis 4 jours. Qui est en état de décomposition cadavérique. Et ce miracle-là fait une onde de choc. Il se répand comme un feu de broussailles. On en parle, les gens qui l'ont vu, beaucoup d'entre eux, nous est-il dit, mettent leur foi en Jésus. Ça a fini par les convaincre que Jésus est réellement envoyé de Dieu. Et puis la nouvelle parvient aux pharisiens. Et puis les pharisiens décident qu'il ne faut pas en rester là, ils convoquent le Sanhédrin, qui est une assemblée de sages, la cour suprême d'Israël en matière religieuse. Mais avant de nous attarder sur cette séance à laquelle nous sommes conviés ici, il faudra peut-être qu'on regarde un petit peu les parties en présence. Il y a les pharisiens. Les pharisiens, vous les connaissez bien. Il est difficile de lire une page de n'importe quel évangile sans tomber sur eux. Ils sont omniprésents dans les évangiles. Les pharisiens, c'était des gens bien. Les pharisiens, c'était des hommes amoureux de la Bible. C'était les hommes de l'étude de la Bible. C'est eux qui géraient les synagogues où on priait et on étudiait à fond la Bible. Les pharisiens, c'était aussi des hommes de la vie sainte, de la piété, de la pratique. Ils ne voulaient pas seulement étudier les Écritures, mais aussi la mettre en œuvre dans leur vie. C'est pour ça que je dis, je l'ai déjà dit ici, ce sont nos cousins. Les pharisiens, ce sont les évangéliques du judaïsme. Et quand vous lisez quelque chose que Jésus dit sur les pharisiens, essayez de voir si ça ne nous concerne pas un petit peu. Mais malgré cela, malgré cet amour pour les Écritures, malgré cette attention apportée à la pratique, malgré cela, quand Jésus surgit, ça ne colle pas avec les pharisiens. Entre Jésus et les pharisiens, ce n'est pas le grand amour. Et vous avez dans les évangiles des discours de Jésus sur les pharisiens qui sont d'une violence rare. Il les appelle de tous les noms. Fous, serpents, vipères, tombeaux blanchis, guides aveugles, et j'en passe. Donc on comprend que lorsqu'il y a l'opposition à Jésus qui monte, les pharisiens sont au premier rang. Mais ils ne sont pas seuls, ils convient le Sanhédrin. Et dans le Sanhédrin, les pharisiens sont minoritaires. Il y a aussi dans ce conseil des hommes qu'on connaît un peu moins bien, qui sont moins présents dans l'Écriture. Ils sont là, mais on ne les voit pas tellement dans les évangiles. Ces hommes-là, ce sont les Sadducéens. Et le grand prêtre, que nous allons écouter tout à l'heure, en fait partie. Qui sont ces gens-là? Les Sadducéens, c'est les hommes du temple. C'est, on pourrait dire, la haute bourgeoisie, ou si vous préférez, l'aristocratie. Ce sont les bonnes familles du pays. S'il fallait trouver un équivalent aujourd'hui, je dirais, les Sadducéens, c'est le tout Paris. C'est ce groupe de gens qui distribue en son sein tous les postes importants du pays. Ça, c'est les Sadducéens. Et eux, ils contrôlent le temple et toute l'économie du temple. Alors on peut se demander pourquoi eux ont quelque chose contre Jésus. Et je crois que c'est justement lié au temple. Parce que voyez-vous, Jésus n'est pas un grand fan du temple. Le temple, ce n'est pas quelque chose d'important pour Jésus. Vous le voyez déjà dans son entretien avec la Samaritaine. Et il lui dit, viendra un jour, et c'est maintenant, où les gens n'adoreront plus à Jérusalem ou au Mont Garizim, mais ils adoreront en esprit en vérité. Donc le temple, ce n'est pas central pour Jésus. Il dira d'ailleurs, et c'est une parole qui lui est reprochée jusqu'à son procès, il dira, détruisez ce sanctuaire, et en 3 jours je le reconstruirai. Bon, il parlait de son corps, mais on ne prend pas des images comme ça à la légère. Et puis, à un moment donné, les disciples emmènent Jésus voir le temple. Ils disent, regarde, c'est splendide, cette bâtisse, c'est magnifique. Hein? Et Jésus dit, mais écoutez, d'ici peu de temps, il n'en restera pas une pierre sur l'autre. Donc, Jésus est constamment en train de relativiser le temple. Et ça se comprend parce que voyez-vous, si le temple est l'endroit où on rencontre Dieu sur la terre, du moment où Jésus surgit, c'est clair que le temple, c'est obsolète. C'est Jésus le temple. C'est lui qu'il faut rencontrer pour voir Dieu. Et donc le temple, chez lui, perd toute son importance et je pense que les Sadducéens ont pris peur en voyant ça. Si on n'est plus tellement attaché au temple, et bien toute cette économie s'écroule. Vous comprendrez qu'entre les pharisiens d'un côté, entre les sadduciens de l'autre côté, ce n'était pas le grand amour. Ils ne s'entendaient pas très bien. Je vous ai dit, les pharisiens, c'était des gens très pieux, des gens de l'écriture. Les sadduciens, nous est-il dit dans les actes, ne croyaient plus grand-chose. Ils ne croyaient pas en un au-delà. C'est assez fou quand on y réfléchit. Ils ne croyaient pas en une existence après la mort. Ils ne croyaient pas en les esprits, ils ne croyaient pas en l'existence des anges. Tout cela, voyez-vous, l'immanence totale, la transcendance abandonnée. Donc vous comprenez bien qu'avec les pharisiens, ça ne collait pas très bien. Et puis aussi socialement, je vous ai dit, les sadduciens, c'était des gens haut placés, c'était la noblesse. Les pharisiens, c'était des gens du peuple, souvent de basse extraction. Ça ne collait pas entre eux, mais face à Jésus, face au Seigneur, ces deux se retrouvent dans l'opposition à Jésus. Hein? Ensemble, ils disent non. Et ils convient donc cette réunion du Sanhédrin qui va se pencher sur le cas de Jésus. Et ce qu'ils disent, c'est que faire? Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Il fait beaucoup de miracles. Et vous noterez qu'ils ne contestent absolument pas la réalité de ces miracles. Ce n'est pas leur souci. Leur souci, c'est ce qui en découle. Et il dit, si nous le laissons faire, tous vont croire en lui. Et alors, les Romains viendront détruire notre pays et la nation. Alors, c'est vrai que le contexte est un peu particulier. Nous sommes dans un pays occupé par les Romains. C'est un peu comme la France dans les années 40, hein, avec cette haine de l'occupant, ces violences qui se manifestent ici et là à son égard, et puis l'occupant qui regarde la situation comme comme le lait sur le feu. Vous savez cette situation en Palestine à l'époque. Nous savons aussi qu'il y a eu au moins une tentative de faire de Jésus le roi. Parce qu'à l'époque, il y avait une attente très très forte, et justifiée d'une certaine manière, une attente très forte du Messie, c'est-à-dire de cet homme providentiel qui allait se lever et qui allait entraîner le peuple ensemble à foutre les Romains dehors. Et certains ont cru que c'était Jésus. Et il y a eu donc cette tentative de faire de lui le roi, et si les services secrets romains ont bien fait leur travail, les Romains devaient être au courant de ça. Est-ce qu'il y a un risque qu'autour de Jésus se cristallise cette révolte dont certains rêvent? Ce n'est pas exclu. En tout cas, c'est l'inquiétude qui s'exprime ici. Ceci étant dit, on peut penser que Jésus n'était pas vraiment le profil de l'homme dangereux pour les Romains. Parce que lors de ses tentatives de faire de lui le roi, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est caché. Il s'est retiré. Il ne voulait rien avoir à faire avec ça. Et on l'a entendu aussi, vous trouverez ça dans l'évangile de Matthieu, déclarer qu'il fallait bien payer les impôts à César. Alors pour un grand révolutionnaire, c'est moyen. Donc les Romains devaient être rassurés d'une certaine manière, en ayant ces échos-là aussi. Et nous voyons que quand Jésus est arrêté, Pilate n'a pas vraiment un dossier très important contre lui. Donc on peut se demander si cette inquiétude est réellement justifiée. En tout cas, il se pourrait que quelque chose naisse autour de Jésus. Il peut y avoir un mouvement qui se monte autour de lui et qui finalement échappe à son contrôle, quelque chose qui dépasse Jésus, une dynamique propre qui se développe. Et c'est cela qui semble exprimer. Et c'est là qu'un autre homme prend la parole, un homme que nous n'avons pas vu jusque-là, un homme des Sadduciens, le souverain sacrificateur, Caïphe, le grand prêtre. Alors, je vous dis tout de suite, il ne faut pas céder à un certain romantisme. Hein, on n'est pas dans un... C'est un successeur à Aaron, mais c'est probablement pas un descendant d'Aaron. Hein. On n'est pas dans un fonctionnement de père en fils, comme cela a été inscrit dans la loi. Non, nous savons que Caïphe, cet homme-là, il a acheté sa charge aux Romains. Hein. L'occupant distribuait ses postes, et entre autres, ce poste important, et Caïphe sans doute graisser la patte aux Romains pour l'avoir. Et nous savons aussi, les historiens nous disent, que Caïphe a eu une longévité tout à fait exceptionnelle dans ce poste. Il a tenu 18 ans, de l'an 18 jusqu'au l'an 36. Il a été saqué en même temps que Ponce Pilate, d'ailleurs. Et pour avoir vécu si longtemps dans ce poste si exposé, Caïphe devait être un homme politique de toute première envergure. Et nous voyons ici, dans ce qu'il dit, un réalisme tout à fait stupéfiant et froid. Parce que qu'est-ce qu'il va leur dire? Il leur dit « imbécile ». Enfin, j'ai pris quelques libertés dans la traduction. Littéralement, il dit « vous ne savez rien ». Vous ne savez rien. Et il leur dit « vous ne vous rendez pas compte qu'il est avantageux pour vous, car seul homme meurt, au lieu que tout le peuple meurt ». Caïphe, c'est un homme politique de la pire espèce, un cynique. Mais il a compris une chose, que ce Jésus-là, il faut s'en débarrasser. Et plus vite c'est, mieux c'est. Il faut le tuer. Il faut le liquider. Et ce conseil-là, il convainc tout le monde. Oui, c'est comme ça qu'il faut procéder. Il faut le tuer. Comme ça, bon débat. Quand on réfléchit à ce qui se passe ici, il y a quand même de quoi avoir des frissons. Nous savons aujourd'hui quelque chose qu'ils ne savaient pas, eux, dans toute cette clarté. Nous savons ici que Jésus n'était pas seulement un envoyé de Dieu. Nous savons qu'il était Dieu lui-même, la parole incarnée. Et vous avez Dieu lui-même qui vient visiter son peuple. Et les hautes instances religieuses, aussi bien les hommes du temple, des sacrifices, que les hommes de la parole, de l'étude, de la lecture de la Bible, ceux-là, tous ensemble, ils décident qu'il faut assassiner, qu'il faut s'en débarrasser une fois pour toutes. C'est tout de même stupéfiant. À partir de ce jour-là, ils décidèrent de le tuer. Et Jésus semble avoir eu vent de l'affaire parce qu'il se fait plus discret, il ne circule plus aussi librement parmi les Juifs, mais il se retire dans une certaine région, pas très loin de Jérusalem, mais quand même un peu à l'abri des événements de la capitale. Qu'est-ce qu'on peut en retirer de ce récit? J'en ai retiré trois choses, et je commencerai par l'aspect que j'ai intitulé l'assassin. L'assassin. Nous avons un assassin dans ce texte. Et cet assassin, c'est Caïphe. Caïphe, le grand prêtre, qui arrive à la conclusion qu'il faut l'assassiner. Qui a ce sang-froid de dire les choses aussi brutalement et de convaincre tout le monde que c'est là la solution. Caïphe. Et en même temps, voyez-vous, Jean nous dit quelque chose de très intéressant. Quand Caïphe parle, il dit quelque chose de très profond. Il prophétise. Et vous, qui connaissez l'Évangile, vous comprenez cette phrase dans une autre lumière. Il est avantageux pour vous qu'un seul homme meure pour le peuple et que toute nation tout entière ne soit pas anéantie. Caïphe est le premier, je crois, après Jésus lui-même, à appliquer à Jésus ce qu'on pourrait appeler la doctrine de la substitution pénale. C'est-à-dire que Jésus est mort pour les pécheurs. Mais voyez-vous, quand Caïphe dit ça, il n'en sait rien. Il ne sait pas ce qu'il est en train de dire. Enfin, il sait ce qu'il est en train de dire, mais il veut dire tout autre chose. Lui, il dit, il faut l'assassiner. Il ne respire que le meurtre. Mais en même temps, et ça, c'est très intéressant. En même temps, Dieu lui fait dire quelque chose qui peut, à la limite, nous édifier. Et en tout cas, qui met en lumière quelque chose du ministère de Jésus. C'est là la souveraineté de Dieu, voyez-vous. Si vous cherchez à comprendre ce que c'est la souveraineté de Dieu, vous avez là un passage des plus intéressants. Méditez ce qui se passe ici. Vous avez cet assassin qui profère des paroles horribles, qui exprime cette idée qu'il a, qu'il faut régler ce problème-là par un meurtre. Et Dieu lui fait dire quelque chose de beaucoup plus profond. Ça, c'est la souveraineté de Dieu. Voyez-vous, Dieu conduit les choses à travers les hommes tels qu'ils sont, dans leur méchanceté même. Je vous ai dit, Caïphe est un meurtrier. Mais Jésus le prend et il lui fait dire quelque chose de très profond. Est-ce qu'il viole la personne de Caïphe? Absolument pas. Caïphe dit ce qu'il a à faire, il dit ce qu'il a à dire. Il fait le conseil qui lui tient à cœur, de pragmatisme politique, si vous voulez. Et si vous aviez interrogé Caïphe après, est-ce que tu as bien voulu dire ce que tu as dit? Il aurait dit, mais bien sûr, quelle question idiote. J'ai exactement dit ce que j'avais à dire. Donc Dieu n'a pas violé la personne de Caïphe. Il ne l'a pas fait fonctionner comme une marionnette, comme un robot qui dit des choses qu'il ne veut pas dire. Que tout d'un coup, Caïphe se réveille et dit, mais qu'est-ce que je viens de dire? Pas du tout. C'est là la souveraineté de Dieu. Il agit à travers nous parce qu'il est beaucoup plus grand que nous et il arrive à ses fins, à ses objectifs, à son plan à lui, sans pour autant violer notre être, notre liberté. Caïphe est un homme libre, aussi libre qu'un homme pécheur peut l'être. Et pourtant, il s'insère dans le plan de Dieu. Le deuxième aspect, c'est celui que j'ai appelé la pianiste frustrée. Alors, il faut que je vous explique un peu. Ce n'est pas explicite dans le texte. Quand on regarde ces gens-là, ce sont des drames qui discutent et qui nous expliquent pourquoi il faut éliminer Jésus. Nous avons vu qu'effectivement, il peut y avoir un risque de soulèvement populaire. Personnellement, je ne crois pas que c'est le fond de leur pensée. Et je vais vous dire pourquoi. Parce que leur plan d'action à eux, il est tout aussi risqué. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Vers la période de la Pâque, alors que nous voyons à la fin de notre texte que les gens affluent déjà vers Jérusalem, ils veulent faire arrêter Jésus à ce moment-là, alors qu'on peut penser que beaucoup de fans de Jésus montent aussi à Jérusalem. Ils vont le confier aux Romains parce que c'est eux seuls qui peuvent tuer quelqu'un. Et ils vont le faire exécuter par les Romains, par l'ennemi juré du peuple, au moment où beaucoup sont là. Alors vous n'allez pas me dire que ce n'est pas jouer avec le feu que de procéder de la sorte. Donc eux-mêmes, ils provoquent une situation assez délicate parce que qui sait ce qui va passer quand Jésus aura été tué par les Romains à ce moment-là? Est-ce que ça ne pourra pas provoquer un soulèvement? Donc je ne pense pas trop que leur souci est vraiment ce risque de soulèvement. Je pense que leur souci transparaît un petit peu dans la réponse de Caïphe qui dit « Vous ne vous rendez pas compte qu'il est entaché pour vous ?» Ces gens-là, ils ont peur pour leur place. Ils ont peur pour leur place. Les hommes du temple, nous avons vu, on comprend. Si la tendance de Jésus prévaut, le temple va connaître un désamour. Et les pharisiens aussi, ils savent la cible de Jésus. Non, ces gens-là ont tout simplement la peur de perdre leur place si Jésus domine. Et ça provoque leur envie de meurtre. Ils défendent leur beefsteak. Et ça, c'est quelque chose qu'il est important de savoir parce que, dans une certaine manière, c'est quelque chose qui peut arriver dans nos églises. Pas de manière aussi extrême, vous comprenez bien, mais La même chose peut se produire, et je dis ça parce que je l'ai vu de mes yeux. Pas ici. Donc c'est pas la peine de cogiter de qui je parle, vous connaissez pas ces gens. Et c'est normal. Je ne sais pas quel sera votre avenir dans l'Église, dans les Églises. J'espère que beaucoup d'entre vous, vous serez amenés un jour à porter des responsabilités dans l'Église. Peut-être quelques-uns ici seront pasteurs ou anciens. Peut-être d'autres seront prédicateurs ou prédicatrices. Peut-être d'autres encore seront responsables d'une structure d'accueil ou d'école du dimanche ou de musique ou que sais-je. Et je vous le souhaite que ce ministère qui vous sera confié vous donnera beaucoup de joie. Mais ce qu'on constate aussi, c'est que parfois ces ministères, non seulement nous donnent de la joie, et de la peine aussi par moments, mais que ces ministères peuvent devenir quelque chose de plus fondamental pour nous, quelque chose qui me définit. Et en forçant le trait un peu, je pourrais dire « je suis parce que je prêche ». Ou « je suis parce que je fais ci ou cela », ou « parce que je suis le chef de la musique ». Je vous laisse remplir la case. Quelque chose qui devient existentiel d'une certaine manière. Je suis très attaché à ce ministère. Et quand quelque chose surgit après dans l'Église, quand Dieu suscite des choses qui remettent en cause cette place qui est la mienne, je peux me trouver dans la position de ces gens-là qui, face à cet événement inattendu, le surgissement de Jésus, ils prennent peur pour leur place. Manifestement, Dieu est en train de faire quelque chose, et eux-mêmes reconnaissent qu'il fait des miracles. Il y a quelque chose. Mais ça les menace, parce qu'ils sont avant tout intéressés par leur place. Et si c'est Jésus triomphe, qu'est-ce qu'on va devenir de nous ? Je peux être un prédicateur apprécié, je prends beaucoup de plaisir dans ce ministère, et puis tout d'un coup, arrive quelqu'un dans l'église et il prêche comme un dieu. Et tout d'un coup, tout le monde veut l'écouter lui, on me fait comprendre, écoute, ça serait bien que... Vous riez, mais ça peut être extrêmement douloureux. Et c'est pour ça que je parlais de la pianiste, parce que j'ai vu le cas avec une pianiste. Une dame qui avait rempli un ministère de pianiste pendant des années dans une église. Et qui faisait ça très mal entre nous. Elle jouait très mal. Mais elle était la seule à pouvoir le faire. Et ça a fait l'affaire pendant longtemps. Et c'était bien. C'était pas fameux sur le plan musical. Mais ça a aidé l'église à grandir. Et puis un jour est arrivé dans cette église... Un professeur de piano, un pianiste professionnel, et qui jouait divinement bien, et qui animait la louange d'une manière que... magnifique. Et ça a été extrêmement difficile pour cette dame, très attachante par ailleurs, de lui laisser un peu de place. Et je crois qu'il y a un peu de ça. Un peu de ça. Qu'est-ce que je veux devenir face à ça? Et la tentation peut être de vouloir tuer, non pas physiquement, mais vous savez bien, avec tes paroles, mettant des bâtons dans les roues, en résistant, en faisant la tête. C'est ce qui s'est produit. Il faut se poser la question, qu'est-ce que c'est le ministère pour moi? Et qu'est-ce qui est important au fin de compte? Est-ce que c'est important que moi je m'éclate? Ou est-ce que c'est important que l'Église avance? Et puis si je peux apporter mon aide pendant un certain temps, très bien. Et si à un moment donné, Dieu décide que mon temps est terminé dans ce ministère, peut-être aura-t-il autre chose pour moi. Mais peut-être simplement il me met à la retraite. Est-ce que c'est la fin du monde? Ou est-ce que je peux accepter que Dieu est souverain aussi dans ces affaires-là, et s'il décide que mon temps est fini, eh bien mon temps est fini, point. Si nous sommes dans cette situation, que nous souffrons de cette manifestation de la souveraineté de Dieu, c'est peut-être l'occasion de repenser à Caïphe, si jamais ça devait vous arriver, et à ces gens-là. Eux, ils défendent leur biftec, coûte que coûte. Ils assassinent Jésus pour ça. Et en même temps, ils perdent tout avec ça. et même le temple, hein, tout a disparu. Ça, c'était la pianiste frustrée. Maintenant, un dernier point que j'ai appelé l'évangéliste rue. Quand on prend un peu de recul sur ce qui se passe ici, c'est assez saisissant parce que, voyez-vous, vous avez là des gens, vous avez un miracle tout à fait stupéfiant. Et face à ce miracle, beaucoup croient. La réponse est la foi. Mais quelques-uns, non. Et non seulement ils ne croient pas, mais ils finissent par vouloir tuer Jésus. Et ça, c'est quelque chose qui est très, je veux dire, qui fait résonner un thème qui est là dans l'évangile de Jean depuis le début, depuis le prologue, mais surtout dans le chapitre 3, quand Jésus discute avec Nicodème, qui lui aussi est un membre du Sanhédrin, hein, où Jésus lui dit la chose suivante. Et voici le jugement. La lumière est venue dans le monde et les humains, les hommes, ont aimé les ténèbres plus que la lumière parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Car quiconque pratique le mal déteste la lumière. Quiconque pratique le mal déteste la lumière. Quand la lumière surgit, elle met en lumière tout ce qui se passe dans les ténèbres. Et elle met en lumière tout ce qui craint la lumière. Et la réaction des ténèbres, c'est de vouloir étouffer la lumière. Ça, c'est un des grands thèmes de Jean. Cette lutte entre la lumière et les ténèbres. Nous savons aussi, vous le savez, que nous tous, nous sommes mauvais. À des degrés divers, il est vrai. Mais tous, nous sommes atteints par le mal et dans tous les domaines de notre être. Donc, si on met ces deux ensemble, on pourrait dire, c'est assez étonnant qu'il y ait des gens qui puissent croire. Si la réaction du mal, c'est de vouloir combattre la lumière, et si nous sommes tous mauvais, il faudrait s'attendre à ce que tous se détournent de Jésus. Or, il y a quelques-uns qui croient. Et c'est ça le véritable mystère dans l'histoire. Comment se fait-il que quelques-uns puissent croire? Et la réponse nous est aussi donnée par l'Écriture. La réponse se trouve en une personne. Et cette personne, c'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est celui qui vient et qui s'occupe des gens, un par un, et qui ouvre les yeux, et qui les travaille, et qui les rend prêts à entendre la parole de Dieu et à l'accepter. C'est son ministère propre. Et sans lui, cela ne serait pas possible. Je sais que plusieurs ici, vous vous êtes attaqués au ministère d'évangéliste de rue. Et je vous en félicite. C'est un ministère important, très difficile, parfois exaltant, souvent déprimant. Il faut que vous sachiez cela. Ici, vous avez un homme, enfin, plus qu'un homme, vous avez Jésus, qui prêche comme jamais personne n'a prêché avant lui, et comme jamais personne prêchera après lui, et qui fait des miracles, qui a un pouvoir extraordinaire. Et face à lui-même, vous avez de l'opposition qui monte. Même lui n'a pas un taux de réussite de 100%, et loin s'en faut. Il faut que vous le sachiez, il ne faut pas que vous vous découragiez, parce que il faut l'intervention du Saint-Esprit pour que ça puisse porter quelques fruits que ce soit. Et chacun de ceux qui ont pu croire ont cru parce que le Saint-Esprit a agi. Il faut que vous le sachiez, et il faut que vous impliquiez le Saint-Esprit dans votre ministère, parce que sans lui, vous ne pourrez pas porter le moindre fruit. Soyez en conscient et demandez-lui de l'aide quand vous êtes dans la rue. Quel est le lien entre l'assassin et la pianiste frustrée et l'évangéliste de rue? Nous avons vu l'assassin. L'assassin qui subit la souveraineté de Dieu, qui s'insère dans le plan de Dieu sans même le savoir. Nous avons vu la pianiste frustrée qui, elle, souffre de la souveraineté de Dieu, qui décide aussi des temps et des moments et quand c'est fini. Et nous avons vu l'évangéliste rue qui, lui, s'appuie, qui a besoin de la souveraineté de Dieu. Et si Dieu n'est pas souverain, il ne peut rien faire. Donc le lien entre ces trois-là, me semble-t-il, c'est la souveraineté de Dieu. Et en même temps, ces trois-là nous renvoient vers nous-mêmes. Quel est mon choix ? Est-ce que je veux subir la souveraineté de Dieu ? Dieu réalise ses projets, que nous soyons avec lui ou sans lui. Est-ce que nous voulons subir ses projets, comme le fait Caïphe ? Est-ce que nous voulons les freiner, comme a pu le faire un certain temps la pianiste frustrée ? Ou est-ce que nous nous appuyons sur lui, comme le fait l'évangéliste, qui a besoin qu'il intervienne et qui s'attend à cette intervention et qui dit avec Jésus que ta volonté soit faite et que ton règne vienne ?